de l'Église, nous avons mis en place, en tout cas, et bientôt avec les traités, vous pourrez constater, en tout cas, de cela, donc par rapport à la vision de l'Église. Et je me suis donné comme responsabilité, en tout cas, de prêcher sur la vision de l'Église. Je me suis arrêté un petit peu sur l'évangélisation, parce que beaucoup de choses sont dites par rapport à l'évangélisation, et je m'aperçois que bon nombre d'églises aujourd'hui ne mettent plus l'accent sur cet aspect de l'évangélisation. Alors on a regardé ensemble tout d'abord la question « qu'est-ce que l'évangélisation ?» Simplement des petits rappels de la parole de Dieu. Nous avons vu la dernière fois les obstacles à proclamer l'Évangile, et je pense qu'il y a un réel obstacle à proclamer l'Évangile. La Bible nous montre bien que Satan est à l'œuvre et qu'il ne veut pas du tout que le monde entende parler de Jésus. Alors, parfois, nous, en tant que chrétiens, on n'évangélise pas pour toutes sortes de raisons, et on va regarder ce matin ces quelques raisons. Alors, j'en ai fait une généralité. Il y en a bien d'autres, bien sûr, mais en même temps, bien sûr, quand un chrétien n'évangélise pas, eh bien, il a donné la place au diable. Alors, nous voulons pas laisser la place au diable, nous sommes plus que vainqueurs et nous voulons faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et je pense que l'évangélisation, évangéliser au XXIe siècle est un défi. En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, nous devons évangéliser les personnes qui sont autour de nous. Voici ce que dit l'Écriture, deux textes pour introduire ce matin. Tout d'abord, c'est l'apôtre Paul qui, pour défendre sa foi, il dit qu'Ananias dit de Paul que Dieu l'avait sauvé pour qu'il serve de témoin. Donc Dieu avait mis à part Paul pour qu'il aille prêcher l'Évangile dans toute la Méditerranée. Et comme vous le savez, l'Évangile ne s'est pas arrêté à la Méditerranée. Elle est allée, comme la Bible dit, jusqu'aux extrémités du monde. Et depuis 2000 ans, eh bien, l'évangélisation continue et continue encore, puisque le Seigneur veut que tout le monde, toutes les personnes doivent entendre parler de Jésus. Jésus a dit aussi, après la guérison d'un démoniaque sur le territoire de Gadara, Marc chapitre 5, verset 19, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. » Voilà quelque part un élan, en tout cas pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Si le Seigneur disait à cet homme, « Eh bien, maintenant tu es guéri, va auprès des tiens, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous devrions comprendre aussi cet aspect. S'il nous a guéris, s'il nous a sauvés, si le Seigneur a rempli votre vie, si Jésus-Christ est rentré dans votre cœur, est-ce que nous n'avons pas, en tant qu'enfants de Dieu, une responsabilité d'évangéliser les personnes qui sont autour de nous? Luc chapitre 8, verset 1. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Nous devrions faire la même chose, nous devrions aller de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, hein? Votre quartier suffit. Votre immeuble suffit, votre rue suffit parfois d'aller annoncer l'Évangile aux personnes qui nous entourent. Mais quand on parle d'évangélisation, je le disais dernièrement, on a un peu de mal dans nos églises et on se décourage assez rapidement parce que combien de fois ai-je entendu cette phrase « Les personnes ne viennent plus à l'église, cela ne sert à rien ». Et voilà une phrase que j'ai entendue depuis 20 ans dans mon ministère. Les personnes ne viennent plus à l'église, cela ne sert à rien. d'évangéliser. La Bible nous montre bien pourtant la volonté de notre Seigneur d'annoncer l'Évangile, de proclamer l'Évangile. Des hommes sont passés avant vous et beaucoup de personnes ne seraient pas ici ce matin s'il n'y avait pas quelqu'un, peut-être quelqu'un de votre famille ou un ami ou simplement un traité, une Bible mis dans votre boîte à lettres qui vous a fait interpeller à un moment donné pour essayer de comprendre la parole de Dieu. Alors, quelques raisons pourquoi aujourd'hui on n'évangélise plus. Pourquoi nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, on se lève plus pour le Seigneur et on prend plus de temps pour le Seigneur pour évangéliser. C'est quelques idées que j'ai trouvées dans certains livres. Aujourd'hui, on n'est pas la seule Église à ne pas courir sur les marchés pour évangéliser. Il y a bien d'autres églises en France qui ont le même problème que nous. Alors certains vont dire manque de temps. On travaille beaucoup et on n'a pas de temps pour le Seigneur, pour proclamer l'Évangile. Mais il y a d'autres raisons que j'ai trouvées un peu étonnantes. Mais voilà un petit peu quelques raisons qui font que on se lève plus pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ aux personnes qui nous entourent. L'échec. Combien de personnes disent, eh bien, j'ai parlé à mon voisin, j'ai parlé à quelqu'un de ma famille, j'ai pourtant expliqué clairement ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, et personne ne vient pourtant. J'ai discuté, j'ai donné toutes les argumentations, et la peur de l'échec, c'est-à-dire fait que, eh bien, on ne veut plus prendre le temps d'évangéliser. Je me souviens quand j'étais jeune converti, quand j'étais dans le sud de la France, j'avais un pasteur qui était virulent. Il voulait que tous les samedis, on aille sur le marché de la ville pour annoncer l'Évangile, pour annoncer Jésus-Christ. Alors, de notre temps, on le faisait avec deux ou trois guitares, et puis on allait sur les marchés, et puis on essayait de parler de l'Évangile. Mais assez rapidement, certains de ce groupe qu'il faisait, eh bien, étaient assez vite découragés, parce que chanter devant tout le monde n'est pas donné à tout le monde, mais en même temps, eh bien, cela n'attirait pas forcément les personnes à l'Évangile. Alors, on échouait assez facilement, mais comme notre pasteur nous motivait à aller sur la place publique, eh bien, on essayait, quand on pouvait, aller sur la place publique, eh bien, on allait évangéliser. Donc, la peur de l'échec fait partie de ces raisons pourquoi, aujourd'hui, on ne se lève plus et on n'annonce plus l'Évangile. La deuxième raison, c'est le sentiment de forcer les gens. Vous savez, quand je vois sur les places publiques les gens qui me forcent à voter pour eux, moi je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, vaut mieux parler de Jésus, de la bonne nouvelle, que de parler d'un parti ou d'une je ne sais pas quoi pour aller. Donc autant forcer quelqu'un à venir à Jésus-Christ qu'aller voter pour telle ou telle personne. On a l'impression parfois que en forçant les gens, on est des commerciaux, vous savez, on fait du commercial. Viens chez moi, viens dans mon église, c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est là où on chante le mieux. Et je me dis, mais quelque part, nous devons apprendre à persuader les gens à venir à l'Évangile. Et je crois que le fait de dire à quelqu'un de venir à l'église, c'est pas les manipuler, c'est peut-être le sauver de l'enfer. Et moi, je pense que nous devons apprendre, c'est pas forcer quelqu'un. Moi, je me dis toujours dans mon cœur, et je rends grâce à Dieu, que le Seigneur m'a pas envoyé qu'une seule personne. Il m'a envoyé une, et puis deux, et puis trois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, au bout de la troisième, je devrais quand même réfléchir. Mais il a permis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Je me dis, waouh, à un moment donné, Nicolas, il va falloir que tu t'assoies pour réfléchir un petit peu. Et je pense que je remercierai toujours le Seigneur que ces personnes ne m'ont pas du tout manipulé. Elles m'ont simplement dit à un moment donné que sans Jésus, point d'éternité. Alors quand vous avez une personne qui vous dit sans Jésus, point d'éternité, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui cherchent, hein, peut-être pas comme on le pense souvent, mais il y a des gens quand même qui se posent des questions, et nous devons être alertes pour leur expliquer l'évangile à ces personnes qui se posent parfois des questions. On entend dire aussi souvent, et c'est la troisième raison, l'évangile édulcoré. Je vais m'expliquer. C'est la mode, le light. On veut que toutes les personnes soient light aujourd'hui. On me pousse régulièrement à acheter du light. Alors, bien sûr que l'évangile light existe aussi. C'est-à-dire dire que la moitié du message du Seigneur. C'est-à-dire ne pas dire le complet, dire qu'une certaine partie. On va parler de l'amour, mais on va oublier le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu est amour, mais on met de côté le sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance. Combien de livres ai-je lu qui sont dans ma bibliothèque où ce mot est quelque part à bannir même dans notre Bible? Le mot repentance est un mot qui est à bannir même dans notre Bible, de peur qu'on fasse peur aux personnes quand on parle de repentance. On préfère parler d'excuses. Mais la Bible est claire, hein? Le mot repentance existe réellement, et toute personne qui doit accepter Jésus-Christ doit se repentir de ses péchés. Parce que s'il ne se repent pas de ses péchés, il n'a pas la vie éternelle. Donc à un moment donné, il faudra lui expliquer qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'être repenti, de se repentir de ses péchés. Jésus-Christ est venu nous rendre heureux pour nous assurer une prospérité ici-bas. Les bénédictions, oui, la souffrance, non. Combien de fois ai-je entendu ce discours? Oui, Dieu doit me bénir. Oui, s'il veut. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de nous donner des bénédictions tous les jours du matin, 24 heures sur 24. J'ai entendu aussi, les souffrances ne font pas partie du plan de Dieu. Oui. Et je dirais non aussi. Tant qu'on va bien, ça va. Quand on passe par une épreuve, allez dire à quelqu'un que les souffrances ne font pas partie du plan de Dieu. Oui, je pense que le Seigneur ne veut pas que nous ayons un message édulcoré. Le message doit être clair. Jésus-Christ n'est pas venu blesser les gens, il est venu pour crucifier notre chair sur la croix, à notre place. Nous devrions être à la place de Jésus-Christ. Notre message doit être clair. La Bible nous dit qu'il faut mourir. C'est ce que Jésus a dit à Philippe et à André. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Je pense que nous devons comprendre, et nous avons peut-être compris, que en tombant, en nous repentant, la reine vient à donner du fruit, et nous avons cette responsabilité à l'humanité aussi de le dire. Le manque de résultats nous décourage, ou pas la bonne méthode d'évangélisation. On a choisi la mauvaise méthode d'évangélisation. Voilà ces cinq raisons qui montrent qu'aujourd'hui beaucoup d'églises n'évangélisent plus. Et même nous, en tant qu'individus, parfois, on n'évangélise plus. Alors je voudrais vous donner 5 raisons, quelques raisons en tout cas, pour évangéliser. Tout d'abord, le Seigneur me demande de labourer. Qu'est-ce que ça veut dire labourer? Est-ce que je dois prendre un tracteur, un motoculteur, et aller voir mon voisin qui peut-être a besoin d'être labouré? Non, soyons sages. Je pense que labourer, ça me fait penser à une action. Et je pense que certaines personnes ont besoin d'être labourées mentalement dans leur tête. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus, ils ont besoin d'entendre parler qu'il y a un sauveur promis dans l'humanité et que ces personnes ont besoin de l'entendre parler. Labourer, c'est prier et intercéder. Est-ce que vous avez déjà prié pour votre quartier, votre voisin, vos amis, vos parents? Est-ce que vous avez pris le temps de prier pour eux? Alors peut-être que vous l'avez fait, mais la prière, je dirais, incessante, ça me fait penser à Abraham, de la Genèse, chapitre 18. Vous savez, quand Dieu est venu le voir, et lui a dit, voilà, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, Sodome et Gomorre va être détruite. Et Abraham n'a pas dit, ouais, super, vas-y, envoie le feu de l'enfer, comme ça on n'en parle plus de Sodome et de Gomorre. Non. Il a intercédé. Et il a intercédé à un tel point qu'à un moment donné, il a demandé 50 justes, et puis 40 justes, et puis 30 justes. Et puis Dieu l'a toujours écouté, puis 20, puis 10, puis un juste. Et si vous connaissez le texte, eh bien, Lot, 5 même, je crois, oui, et puis mais la Bible nous dit que il a insisté, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu. Et nous avons besoin de nous apprendre aussi dans notre vie que nous devons insister parfois de demander à Dieu, Seigneur, peut-être dans mon quartier, il y a un juste, mais je veux intercéder pour lui. Permets que demain je le rencontre, ce juste. Je veux intercéder pour lui. Deuxième chose dans l'idée de labourer, c'est que nous devons vivre. Ce que je dis, je dois le vivre dans mon quotidien. Je dis souvent que les Italiens, en tout cas pour les Calabrais et les Siciliens, je les connais un peu plus que les autres, mais parce qu'étant d'origine là, bien souvent, dans la semaine, ils sont des mafieux. Et puis le dimanche matin, ils vont à l'église pour se donner une bonne conscience. C'est l'image que j'ai, malheureusement, de ces régions du monde. On est des mafieux dans la semaine, et puis le dimanche, on va à l'église. C'est pas ce que le Seigneur nous demande d'être. Hein. Alors, non pas que je vous demande d'être mafieux, après tout. C'est pas du tout l'idée que j'ai du chrétien. Mais la Bible nous dit simplement que les premiers chrétiens, ils louaient Dieu et ils trouvaient grâce auprès du peuple qui y avait autour. Je me dis, les gens qui sont dans votre entourage, votre voisin, vos amis, vos parents, devraient rendre de vous un bon témoignage. Alors, c'est pas toujours facile. Pour avoir vécu quelques pressions avec des voisins, parfois c'est pas toujours évident, hein, de rendre un bon témoignage auprès de ces personnes qui sont autour de nous, qui, pour 10 centimètres, ils vont mourir si vous avez pris 10 centimètres de leur terrain. Récemment, on a recalculé un terrain qui est juste derrière chez nous. Le propriétaire veut le vendre. Et j'ai trouvé étonnant que le jour de la réunion, le maître d'œuvre avait délimité, mais il l'avait laissé 50 centimètres d'un côté, 1 mètre de l'autre. Et il y a juste un voisin qui vient de faire construire il n'y a pas longtemps, qui a dit, de toute façon, j'en porterai rien au ciel. Alors j'étais surpris d'entendre cette remarque, mais pour lui, la limitation était faite, et qui ne voulait pas changer le grillage qu'il avait déjà posé. Donc il voulait laisser telles les choses que ça. Alors, c'est moi qui ai gagné un maître dans cette affaire, donc je dois maintenant entretenir le maître que lui n'a pas voulu récupérer, mais en attendant, voilà un petit peu l'idée que j'ai de la vie, c'est-à-dire je vis ce que je dis, et je dis ce que je vis. Et je pense qu'à un moment donné, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait trouver grâce auprès des gens qui nous entourent. Le jeûne, parfois, fait partie aussi de cela. Les bonnes actions font partie aussi de cela. Et venir en aide aux non-chrétiens fait partie aussi de cela. Dire qu'une personne, nous voulons la voir venir à l'évangile et lui dire « Maintenant, tu te débrouilles dans ton coin, je ne ferai rien pour toi », eh bien, je pense que ce n'est pas regarder ce que le Seigneur nous demande de faire au travers de sa parole. Et puis témoigner de notre foi. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance. Nous devons labourer avec espérance. Quand on prie pour quelqu'un, quand on intercède pour quelqu'un, quand on jeûne pour quelqu'un, quand on fait une bonne action pour un non-chrétien, on doit le faire avec espérance. J'ai pas tout lu. Le verset dit, et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Parce qu'à un moment donné, si vous savez semer avec espérance, vous allez récolter ce que vous avez fait. Deuxième pas, le Seigneur me demande de semer. C'est quoi semer? Semer un traité, semer une Bible, un évangile, une parole douce, un témoignage. C'est ça semer. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est ça semer. Une parole douce, une parole dite à propos. À un moment donné, c'est ça, semer l'évangile. Troisième pas, le Seigneur me demande d'arroser. Quand j'étais dans le sud de la France, on était avec un groupe de pasteurs et aussi de ces dames, puisque certaines étaient là. Et j'ai assisté à une conversation avec une dame qui discutait à un moment donné avec Joël Chiron, que nous soutenons. Alors, il est très axé sur l'agriculture, Joël Chiron, il aime beaucoup ça. Sa femme récolte des graines, des plantes, et puis elle les fait sécher en Bulgarie, et puis elle les revend aujourd'hui. Mais cette dame, qui connaissait très peu de choses sur l'agriculture, elle a dit, cet été, j'ai planté plein de plantes, j'ai planté des tomates, j'ai planté ceci, j'ai planté cela, mais rien n'a poussé, tout a grillé. Quand il faisait trop chaud, je me mettais 3 ou 4 fois par jour à arroser. Et Joël lui dit, mais il n'y a que comme ça que tu vas griller tes plantes. Hein? En arrosant plusieurs fois, il n'y a que comme ça qu'on peut griller les plantes. Hein? Et un enfant qui était là, donc son enfant qui était là, maman, tu vois ce qu'il dit, il faut l'écouter. On ne peut pas arroser une plante tous les jours, il faut l'arroser que de temps en temps. Mais l'idée que nous avons parfois de la semence, c'est ça, c'est-à-dire que on va griller ce que le Seigneur est en train de faire grandir. Alors on pense que parler tous les jours de Jésus va faire grandir la personne. Non, non. Je pense qu'il y a un temps pour parler de Jésus. Il y a un temps de semer. Je pense que dans l'idée qu'on a souvent de l'évangélisation, moi, je pense qu'il faut savoir faire comme les paysans, s'en inspirer des paysans. Ils ne plantent pas tous les jours. Il y a un temps pour planter. Et je pense que nous devons nous en inspirer aussi quand on évangélise. Il y a un temps pour arroser. On n'arrose pas tous les jours une plante, sinon elle va griller. Combien de fois il y a certaines personnes qui se disent à moi, celui-là, je vais le faire venir à l'évangile. Et la seule personne qui va lui dire une chose, il va l'éloigner de Dieu pendant 20, 30 ans ou même à vie. Je pense que nous devons faire très attention. quand on arrose une plante, surtout un enfant, un futur enfant de Dieu? Je pense que le Seigneur nous demande, bien sûr, de montrer de l'amour et de la miséricorde vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Est-ce que Dieu n'a pas montré de l'amour et de la miséricorde vis-à-vis de nous? Imaginez que les personnes qui m'ont parlé de l'Évangile soient venues m'arroser tous les jours. À un moment donné, et pourtant il y en a certains qui ont insisté, hein, mais j'étais quelqu'un de très 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 difficile, de très très dur. Je leur disais, écoute, maintenant tu vas t'arrêter de m'arroser, hein, je reviendrai demain parler avec toi. Mais il y a des personnes qui pensent que voilà, il faut arroser, 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 arroser. Non, non, je pense qu'il y a un temps pour toute chose. Dieu me demande aussi que cette graine, le Seigneur me demande de la faire grandir. On a souvent pensé, et à tort, que certaines personnes pensent que si quelqu'un vient à l'Évangile, c'est grâce à moi. Et moi, je voudrais juste vous rappeler que si quelqu'un vient à l'Évangile, c'est grâce au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui fait grandir la plante. Et bien souvent, on pense que c'est si il vient à l'Évangile, c'est grâce à moi. Vous savez, c'est comme les points. On fait une accumulation de points, et quand on arrive à un résultat, alors on a des bénédictions par rapport à cela. Il n'y a que le Seigneur qui fait grandir la semence. C'est ce que Paul a dit. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Laissez le job au Seigneur. C'est pas votre responsabilité, ça. C'est pas votre responsabilité. Si un de vos enfants doit venir à l'Évangile, croyez-moi qu'il viendra à l'Évangile. Si un de vos amis doit venir à l'Évangile, croyez-moi qu'il viendra à l'Évangile. S'il y a quelqu'un de votre entourage qui doit accepter Jésus, croyez-moi qu'il va accepter Jésus-Christ à un moment donné. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné de la part du Père. Voici ce que Jésus a dit à un moment donné à ses disciples. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné du Père. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire à un moment donné un travail dans le cœur. Et il va le dire un petit peu plus loin, Jean chapitre 16, verset 8, en parlant de l'Esprit Saint. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous pouvez donner toutes les argumentations que vous voulez. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de l'Esprit de Dieu, qui peut convaincre une personne de son péché, de sa justice et de son jugement. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire ce genre de choses au travers de l'Esprit de Dieu. Cinquième pas, le Seigneur me demande de moissonner. Dans le sud de la France, pour retourner dans le sud de la France, j'y étais pendant quelques jours, j'ai dit avec humour, le soleil est rentré dans ma voiture, il est sorti quand j'ai pris la direction de l'Île-de-France. Pardonnez-moi, mais je l'ai bien mis dans ma voiture, le soleil, en partant du sud de la France. Mais dès qu'il a vu que je prenais direction Paris, il a dit là, catastrophe, je rentre à la maison, je retourne en arrière. Mais le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de moissonner. Et la moisson est quelque chose d'important. Oui, il y a des gens qui, après avoir été travaillés dans leur cœur, à un moment donné vont accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Et il y a souvent des personnes qui sont venues à l'Évangile sans forcément que vous ayez fait quoi que ce soit pour qu'ils viennent à l'Évangile, sans trouver, je dirais, une argumentation pour qu'ils viennent à l'Évangile. Ils sont arrivés à l'Évangile du jour au lendemain. On se dit, waouh, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire une chose pareille. Je me souviens de ce chrétien qui me voyait une fois par semaine, le samedi, et il pensait que, en me parlant de Jésus, j'allais accepter Jésus. Et il a fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Je n'ai jamais accepté Jésus avec ce chrétien-là. Je n'enlève pas sa volonté par rapport à cela. Je l'enlève simplement que je n'étais pas prêt à recevoir Jésus au moment où il me posait la question. Dieu fait son travail, Dieu est à l'œuvre. Et il y a des fois, vous savez, il n'y a pas besoin de faire des miracles pour voir le Seigneur agir dans l'œuvre d'une personne. Il y a des fois, il y a des personnes qui acceptent du jour au lendemain Jésus-Christ. Mais il y a des fois, il y a des personnes, il faut attendre 20 ans, 30 ans pour qu'elles acceptent Jésus-Christ. Je me dis, le cœur humain est tellement dur aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui attendent, je dirais, la dernière seconde pour accepter Jésus-Christ. C'est dur, hein, n'est-ce pas, d'entendre cela. Mais c'est un fait. Et nous devons l'accepter. Sixième pas, le Seigneur me demande de battre le grain. C'est quoi battre le grain? Ben, vous savez, quand une personne vient à l'église, on s'en charge. On gère. On est équipé. On a des études, ITA. On a des leçons de la parole de Dieu. On a des méthodes de lecture pour la Bible. On gère cette affaire-là. C'est ça, battre le grain. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. Qu'une personne, quand elle passe la porte de l'église, quand elle est en Jésus-Christ, elle est en Jésus-Christ. Mais si elle n'est pas en Jésus-Christ, eh bien nous devons apporter à cette personne l'essentiel pour qu'elle comprenne qu'elle peut accepter Jésus-Christ dans son cœur. Alors je voudrais terminer avec cela. Qu'est-ce que faisait Jésus en son temps? La Bible nous dit que parfois il partait tout seul pour prier. Quand il a fait le choix de ses disciples, la Bible nous dit qu'il est parti tout seul à un moment donné et après il est venu choisir les disciples. Moi je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer de cela, en tant qu'Église, en tant qu'individu? Je vais employer un mot qu'on emploie dans le sud de la France. Chiche. Chiche. Est-ce que vous n'aimeriez pas, une fois par semaine, ou une fois par mois, venir ici et dire, Seigneur, cette église, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'est-ce que je raconte? Presque 35 ans qu'elle est ici. Est-ce qu'on n'aimerait pas voir plus de la population de Marolles-sur-Seine venir à l'église? Alors, la population de Marolles-sur-Seine, c'est 1700 âmes. Mais est-ce qu'on a pris le temps, nous, en tant qu'église, de dire, Seigneur, mais peut-être qu'il y a un juste dans ce village. Peut-être qu'il y a un juste dans ce village qui a besoin. Peut-être que nous prenions du temps à la prière, d'intercession, pour que nous puissions le rencontrer, ce juste. Alors c'est vrai que le Seigneur pourrait le diriger, ce juste. Mais nous devrions prendre aussi peut-être du temps par rapport à lui. Parfois aussi le Seigneur proclamait l'évangile. Jésus-Christ ne restait pas dans sa case ou dans sa maison pour attendre que quelqu'un arrive chez lui. Il allait vers les autres. La Bible nous dit, je vous l'ai lu, il faisait les villes en ville, les villages en village. Ça veut dire que de temps en temps, il faut se lever de son fauteuil, laisser le téléphone portable, laisser la Nintendo, laisser la télévision et aller faire ce que le Seigneur nous demande de faire. D'aller courir de village en village, de ville en ville pour proclamer l'évangile. Le Seigneur a enseigné aussi les gens qui venaient vers lui, ceux qui avaient besoin d'entendre parler de l'évangile, il leur parlait de Jésus. La Samaritaine avait besoin d'entendre parler de Jésus. Nicodème avait besoin d'entendre parler de Jésus. Mais parfois, il les a enseignés. Il leur a dit les choses clairement. Et je pense que notre évangile, l'évangile que le Seigneur nous a proclamé, ne doit pas être galvaudé à des choses qui ne sont pas dans la Bible. Si nous parlons de Jésus-Christ, nous devrions parler aussi de la repentance. Nous devrions parler aussi du péché. Beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont de propres justes. Et ils ne viennent pas à l'église pour ces raisons-là. Donc notre message doit être clair. Là, je vais vous faire bondir. Jésus-Christ quelquefois mangé avec des gens de mauvaise vie. Alors certains vont dire, oh non, moi jamais, hein. Jamais j'irai manger avec un pécheur, hein. Mais la plupart du temps, le Seigneur le faisait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, eh ben non, je ne veux pas parce que maintenant je suis saint, donc je ne vais pas me mettre avec les pécheurs. Non, non, mais attendez. Si vous voulez que les gens entendent parler de Jésus, si vous voulez que les gens voient vivre votre foi, ben parfois vous devez aller voir les gens de mauvaise vie. Il était en route et de temps en temps, il faisait des miracles. Moi, je veux voir des miracles aujourd'hui au 21e siècle. Je suis pour les miracles. Moi, je veux voir des vies transformées. Je veux voir des paralysés se lever pour le Seigneur. C'est ça, vraiment, vivre la vie pour le Seigneur, évangéliser. Proclamer l'Évangile. Et je pense que nous avons besoin de le faire en tant qu'Église et en tant qu'individu. Alors, comment communiquer l'Évangile dans ce monde qui bouge ? On appelle aujourd'hui ce monde le post-moderne, le post-modernisme. C'est peut-être un mot que vous n'avez jamais entendu, mais l'Évangile est vraiment une... C'est, quand on parle de Jésus, c'est oui, c'est ta vérité, c'est la tienne. D'accord ? Moi, j'ai la mienne. J'appelle cela la religion pizzeria. C'est chacun veut prendre sa part. Hein. On la coupe en six. L'essentiel, c'est le centre. Donc, c'est ta religion t'amènera au ciel. La mienne m'amènera aussi au ciel. Et c'est ce que le monde aujourd'hui dit clairement. Certains pensent que cette période, je dirais, du 21e siècle, on a l'impression de se retrouver à Athènes. Vous savez, quand Paul prêchait à Athènes, il n'y avait là que des philosophes. Et en France, on est des spécialistes de la philosophie. Quand on discute avec certaines personnes, ils vont vous citer Nietzsche, Kant, ils vont vous citer toutes sortes de philosophes qui ont marqué à un moment donné leur existence, mais ces gens-là ne sont pas au ciel. Il n'y a que Jésus qui est au ciel. Alors nous pouvons dire clairement et ouvertement qu'il n'y a que Jésus qui va les sauver. Et ce n'est pas la philosophie de Nietzsche, ou la philosophie de Descartes, ou la philosophie de je ne sais pas qui va les apporter au ciel. Il n'y a que Jésus qui peut porter au ciel l'humanité. J'ai noté, Paul s'est fait tout à tous. Voilà ce qu'il dit à un moment donné dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2. Nous devons être fermes sans être fermés. Vous comprenez cette pensée ? Moi je pense que quand on prêche l'Évangile, on doit rester droit sur dans nos baskets, allez, parce que j'ai des belles baskets, droit dans nos baskets. D'être ferme, mais sans être fermé. Et parfois, vous savez, nous devons faire des choses dans cette humanité qui peut-être va gêner quelqu'un d'autre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait avoir la priorité d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est un message que toute l'humanité devrait entendre. Amen. Je vais vous donner une petite promesse pour conclure cette matinée. C'est dans le psaume 13. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, tiens, voilà un verset que j'avais oublié, parce qu'il m'arrive parfois d'oublier des versets. Le psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors, je voudrais juste vous laisser cette promesse. Dieu est bon. Dieu n'oublie pas ni votre famille, ni vos amis, ni vos collègues de travail. ni les gens que vous avez dans votre quartier, Dieu n'oublie personne. Il veut tous, toutes les personnes qui vous entourent viennent à l'évangile. Alors que nous puissions prendre conscience de cela, moi, j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien durant cette semaine. Amen.